Radio Kapi. Oh, Kapi.
Malgré la désignation de Jean-Michel Samalukonde comme candidat unique de l'Union Sacrée à la présidence du Sénat, Afan Idrissa et Jonas Moukamba n'ont pas retiré leur candidature. Par conséquent, les élus des élus vont départager ces trois candidats de la même famille politique demain, sauf encore changement des dernières minutes. Peut-être les débuts des solutions aux problèmes d'insalubrité dans la capitale de la RDC qui compte plus de 3 millions de tonnes de déchets. Le gouverneur de Kinshasa demande l'implication de l'armée pour élever ces défis d'assainissement de la ville. Les inondations dans la ville de Kalemie, nous en parlons encore, en faisant cette fois-ci une évaluation des dégâts sur le plan économique. Vous entendrez à ce sujet Jules Moulia, le président de la Fédération des entreprises du Congo dans la province du Tanganyika, qui est l'invité du journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Les membres du bureau définitif du Sénat seront élus et installés ce lundi 12 août après audition des messages de campagne des candidats retenus. D'après les nouveaux calendriers rendus publics hier par les bureaux provisoires, le bureau de réception des candidatures a été réouvert ce samedi entre 12h et 18h afin de permettre aux différents candidats de retirer et substituer leur candidature. Une nouvelle liste définitive des candidats retenus a été publiée. Michel Kifindangoy nous en donne plus de détails.
En dépit du ticket consensuel de l'Union Sacrée, la liste définitive des candidats n'a connu que deux modifications d'après le bureau provisoire. Jean-Michel Samalukonde, candidat président du Sénat pour le compte de l'Union Sacrée, affrontera ce lundi Idrissa Afani et Jonas Moukamba qui n'ont pas retiré leur candidature. Christophe Lutundula ayant désisté, accorde 100% des chances à Joseph Kalala, candidat unique au poste de premier vice-président. À la deuxième vice-présidence, Modeste Bahati Lukwebo de l'Union Sacrée fera face à Corneille Isenge et Eustache Mouanzi. Le MLC remplace la candidature de Jean Bamanissa par celle de Françoise Bemba qui affrontera Justin Kalumba, Ivan Kazadi et Nefertiti Gundianza au poste des rapporteurs. Le vote va aussi départager les opposants Salomon Idi Kalonda et Jean-Claude Baende pour le poste des rapporteurs adjoints. À la question, en dépit du choix de l'Union Sacrée pour Topin Kabongo, Carole Aguito, Moïse Ekambo et Sylvain Mukengeshai restent dans la course. Et enfin, Isabelle Kabamba va affronter Pascal Omana à la question adjointe.
Parlons de l'assainissement de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba sollicite l'accompagnement des services de l'armée. Ceci à quelques jours du lancement de la grande opération d'assainissement de la ville dénommée Coup de poing. Le gouverneur de la capitale l'a dit ce samedi à l'issue de sa rencontre avec le chef d'état-major général des FARDC. Il affirme que Kinshasa, qui est à ses jours dans le chaos, veut s'appuyer sur les différents services de l'armée pour la réussite de ses actions. On écoute les explications de Daniel Bumba dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Bon, cette démarche était une séance de travail vraiment pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous avons menées sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total. Nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, désensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable.
Et à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, la police renforce les mesures de sécurité pour lutter contre les regains de la criminalité dans cette ville. Des bouclages suivis des fouilles de véhicules sur les voies publiques se font chaque semaine et les patrouilles sont intensifiées pour dénicher les malfrats. Une vingtaine de présumés bandits armés sont déjà aux arrêts, précise le commandant urbain de la police. La société civile de l'Ituri demande à la police de maintenir ses dispositions pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Isaac Remoyope.
Des meurtres, des vols à main armée, des kidnappings étaient enregistrés presque chaque jour dans les 24 quartiers de la ville de Bounia. Mais aussi des coups de feu étaient attendus chaque nuit et qui troublaient la quiétude de la population. Ces violences étaient attribuées par la police aux bandits armés, aux miliciens qui se dissimulent parmi la population, à certains militaires et policiers incontrôlés et aux groupes de jeunes dénommés Oulor. Pour mettre fin à ces criminalités, la police qui est déployée sur toutes les artères de la ville a renforcé les mesures de sécurité. Des bouclages, des contrôles des véhicules et des membres de l'équipage se font sur la voie public, mais aussi des patrouilles nocturnes sont intensifiées, précise le commandant de la police de Bounia. Au moins 25 présumés bandits ont été arrêtés pendant ces opérations et déférés devant les juridictions compétentes. Plusieurs sacs de chanvre ont été également saisis par la police. Le colonel Abeli Mwangu indique que ces opérations vont se poursuivre pour la protection des personnes et de leurs biens.
Avec les roadblocks que nous effectuons, on fouille systématiquement les véhicules, les motards et leurs passagers à dissuader. Et beaucoup de criminels nous ont fouillés ici. Nous avons arrêté un grand nombre aussi des bandits là, on a diminué un peu le nombre de ces arrêts. Puis en tout cas, il y a du calme.
La coordination de la société civile lance un appel à la police de maintenir la pression sur ces hors-la-loi pour mettre fin à la criminalité à Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ouvrons le chapitre éducation. La rentrée scolaire 2024-2025 doit être apaisée. C'est en tout cas le souhait du gouvernement exprimé le vendredi au Conseil des ministres. Ce souhait fait partie des points essentiels que la première ministre Judith Suminwa a soumis à la réunion hebdomadaire du gouvernement afin de trouver des issues favorables pour assurer la prochaine rentrée scolaire. Quelques propositions y ont été formulées, comme nous l'a dit Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement dans son compte-rendu dont un extrait a été sélectionné par Askin Zigbia Tayoro.
Dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée dans tous les secteurs de notre système éducatif, la Première ministre a relevé une nouvelle fois la nécessité de la réactivation du processus du dialogue avec toutes les parties prenantes en vue d'une prise en charge par les gouvernements des revendications pendantes. Elle a à cet effet encouragé la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, à organiser dans les prochains jours à Bibois un cadre de concertation avec le parti prenante de son sous-secteur. Les mêmes encouragements ont été adressés à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a institué une commission préparatoire de la commission paritaire gouvernement bas syndical dans son secteur.
Pendant que le gouvernement prend des dispositions pour une rentrée scolaire effective et apaisée, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC lance le préavis de grève. Lors de son assemblée générale ordinaire, tenue ce samedi ici à Kinshasa, cette structure invite tous les enseignants du pays à faire preuve de prudence avant la rentrée scolaire 2024-2025. Ce reportage est signé Blaise Ndongala Mayanda.
C'est une mise en garde sévère que ces professionnels de la CRE lancent à l'endroit du gouvernement à quelques jours de la rentrée des élèves du primaire et du secondaire. Ils recommandent à la première ministre d'accorder à tous les enseignants un nouveau barème salarial uniforme pour garantir la qualité des enseignements dispensés. Ces enseignants plaident également pour la suppression des prises en charge des parents au niveau secondaire en leur garantissant une retraite digne et honorable. À cette occasion, leur porte-parole a insisté sur la convocation avant la rentrée scolaire prochaine des assises devant donner réponse aux problèmes qui minent les certains des l'éducation à travers le pays. Jean Bosco Pouna.
La synergie des syndicats des enseignants demande au gouvernement de convoquer les états généraux de l'inspection générale de l'enseignement pour redorer son image et donner des réponses aux problèmes des primes des fonctions spéciales et spécifiques.
Ces enseignants ont en outre souhaité que leurs collègues soient intégrés dans les comités de gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ils ont par ailleurs appelé le gouvernement à payer les enseignants NU et NP ainsi que les arriérés des primes des intervenants aux évaluations certificatives antérieures.
Blaise Ndongala Mayanda. Par ailleurs, au Nord Kivu, la conseillère du gouverneur des provinces en matière d'éducation et de nouvelle citoyenneté interdit aux chefs d'établissement, tout réseau confondu, les monnayages des inscriptions, achat d'uniformes et autres fournitures scolaires. Plus Kakamala l'a fait savoir vendredi au cours d'un point de presse qu'elle a animé au gouvernorat des provinces. Le condensé de cette communication avec Gabriel Wamenya.
Devant la presse, Prisca Kamala a formellement mis en garde tout chef d'établissement qui se compromettrait dans ses habitudes interdites par le gouvernement congolais. Il s'agit notamment du monnayage et des inscriptions, l'obligation d'imposer aux parents d'acheter les uniformes, les logos de l'école, les fournitures scolaires et tout autre frais exigés malicieusement par quelques chefs d'établissement. Répondant aux questions des journalistes sur le paiement des frais scolaires, Prisca Kamala a clairement dit qu'il est aussi interdit au chef d'établissement de procéder au recouvrement des avances et des frais scolaires jusqu'à nouvel ordre. Selon certaines sources fiables, quelques chefs d'établissement des écoles publiques conventionnées et officielles dans la ville de Goma exigent déjà des avances et des frais scolaires. Elle a par la même occasion annoncé des mesures disciplinaires et des sanctions sévères contre tout chef des écoles publiques ou privées agréées qui enfreindrait toutes ces dispositions. Rappelons que la mise en garde de la conseillère du gouverneur intervient après celle faite au chef d'établissement par le président provincial de l'ANAPECO, alors que d'autres chefs d'établissement avaient déjà clôturé les inscriptions des élèves, notamment dans les écoles catholiques.
Nous restons en Nord Kivu, dans les territoires de Beni. Plusieurs écoles secondaires organisant des options techniques dans la cité frontalière de Kassini-Loubiria ont enregistré des résultats particulièrement faibles à la dernière édition de l'examen d'État. Selon Tembo Makupi Kisokolo, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo SIECO pour l'antenne de Kassindi, ces échecs sont attribués à l'inadéquation des programmes scolaires. Il recommande aux inspecteurs de l'enseignement de fournir aux responsables des écoles concernées dans la province éducationnelle Nord Kivu 2 des programmes conformes et actualisés. Tembo Makupi Kisokolo explique dans cet extrait proposé par André Kitenge.
Ce problème peut être lié, un, à la pédagogie. Le programme change du jour le jour au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa. Et nous avons toujours un grand retard par rapport au changement des programmes. Les uns utilisent les programmes 2009, les autres 2010. Il y a déjà 2017, 2020. C'est pourquoi nous courons derrière un problème. Les uns sont en train d'utiliser, oui, les anciens documents. Et les autres utilisent le système éducatif actuel. Nous demandons aux associations des parents d'élèves de leur demander pourquoi il y a des chèques toujours. Nous, nous détenons les programmes. Mais en endroit profondeur, nous trouvons que non, les programmes de 2009. Et ce sont ces inspecteurs-là qui doivent nous unir et nous donner un programme national qu'il faut et la matière, les manières qu'il faut. Actuellement, nous avons un problème. Les problèmes du niveau programme national, les problèmes du niveau politique par rapport au programme. Il y a un programme qui arrive à l'ouest, mais nous, parvenir à trouver ce programme, ça demande 5 ans. C'est pourquoi nous avons une difficulté.
De son côté, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 rejette ces allégations. Selon lui, ces échecs sont principalement dus à la négligence de certains élèves et enseignants qui ne prennent plus les études au sérieux et ne s'adaptent pas aux nouveaux programmes scolaires. Direction la province de l'Équateur, où la zone de santé d'Iboko, territoire de Bikoro, à plus de 200 km de Mbandaka, fait face actuellement à la pénurie d'eau potable. La plupart des puits de forage manuels et des sources améliorées ont tari. Cette pénurie accrue d'eau potable fait suite à la persistance de la saison sèche, indique des témoins. Conséquences sanitaires, il y a notamment la recrudescence des maladies liées à l'utilisation de l'eau sale, mais aussi la persistance de l'épidémie des Mpox, comme l'explique le médecin chef des zones de santé d'Iboko. Le docteur André Boossa a été joint par Paul Richard Malengela.
La couverture de la population en eau potable en termes d'une source améliorée ou de l'eau propre. Avec les projets village assaini, on avait au total 88 forages manuels, 21 sources améliorées, 2 forages mécaniques, ce qui donnait à la population une couverture de 39%. Au jour d'aujourd'hui, dans toute la zone, moins 7% de la population a accès à l'eau potable ou une source améliorée. Parce que la plupart des ouvrages laissés par les projets village assaini sont tombés en panne. Puis la sécheresse aussi a presque taré toutes les sources améliorées. Et sur le plan sanitaire, nous voyons vraiment l'éclosion des maladies liées à la carence d'eau et puis la corvée d'eau. Je vous affirme que des populations font des heures et des heures pour avoir ne fût-ce qu'une petite quantité d'eau et d'autres n'en ont même pas. Ils consomment des eaux de mauvaise qualité. Pour enchaîner l'impact sanitaire, je vous dirais que même la persistance de l'épidémie des monkeypox qui sévit dans notre zone est liée aussi à cette pénurie d'eau. Nous lançons un SOS à toute personne de bonne volonté qui peut nous venir en aide.
Actualité internationale.
Chamboulement dans la magistrature au Sénégal. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a procédé vendredi à de vastes changements dans les différentes juridictions du pays. Plusieurs magistrats qui étaient impliqués dans le dossier des viols supposés sur une masseuse impliquant alors l'ancien opposant Ousmane Sokho ont été mutés loin de Dakar.
L'invité.
C'est Jules Moulia, président de la Fédération des entreprises du Congo dans la province du Tanganyika. Il dresse le bilan des dégâts causés par les inondations aux opérateurs économiques. On écoute Jules Moulia dans cet entretien avec Paul Emunanga.
Président Jules Moulia, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Après les inondations qui ont envahi la province du Tanganyika, dans quelles conditions se trouvent présentement les opérateurs économiques?
Les opérateurs économiques ont été fortement affectés. Et ça, c'est depuis le mois de décembre de l'année passée. Nous sommes vraiment sinistrés. Vous savez comment c'est avec le port. Le port qui est le point d'arrivée, c'est une des deux entrées de la province. Il y a Kalemi et Moba. Moba, n'en parlons pas. Le port est parti. Il n'y a plus de port à Moba. Alors, le seul port qui nous reste encore, celui de Kalemi. Mais qui, dans deux ans, ce sera aussi partie, quoi. C'est une infrastructure qui a besoin d'être remodernisée et rendue beaucoup plus accessible pour les bateaux et pour les opérateurs économiques qui y vont pour décharger leurs marchandises. Ça a duré jusqu'il y a à peu près un mois et demi. Donc ce sinistre-là, donc il y a des quartiers comme le quartier d'Ave complètement sinistrés. Beaucoup de nos membres sont dans le quartier d'Ave, donc tous ces opérateurs économiques sont presque à la faillite, quoi.
Et avez-vous pu évaluer les pertes?
Non, je dirais que en termes de pourcentage, 40% des opérateurs économiques, ceux qui tiennent les magasins surtout et les boutiques dans le quartier d'Ave et en ville, 40% étaient très fortement affectés. 40% de nos opérateurs économiques, c'est ça la réalité. Et puis en plus, il y a les taxes qui ont continué à être payés, on a été harcelés malgré qu'on soit vraiment sinistré, mais nos services des taxes, nos services d'assiette n'ont pas arrêté de nous harceler, quoi. Donc sans pitié, sans compassion, rien du tout.
Par rapport à cette situation, nous avons pu remarquer que plusieurs maisons de commerce qui ont fermé ne sont plus en mesure de rouvrir.
Oui, c'est ça. J'ai même fait un plaidoyer à Kinshasa récemment. J'étais à Kinshasa où j'ai demandé à la FEC nationale, j'ai demandé au ministre sectoriel, donc qui gère directement l'économie, de penser à des mesures d'allègement d'impôts, à des allègements fiscaux. Parce qu'autrement, à cette allure, les commerçants qui étaient très affectés ne vont pas se relever. Bon, il y a des gens qui vont perdre de l'emploi parce qu'eux aussi emploient des gens. S'ils ne sont pas aidés d'une manière ou d'une autre, même ne fût-ce que par des allègements fiscaux, ceux-là vont disparaître. Et ça va contribuer à l'appauvrissement de notre province.
Et nous avons vu qu'il y a des marchandises qui ont été abîmées par les eaux.
Des tonnes et des tonnes. Notamment le marché qui vend encore à Dave, là, qui vend tous ces produits qui viennent de Tanzanie. Il y a des tonnes et des tonnes de riz qui ont été complètement abîmées. Des tonnes de maïs complètement abîmées. Et ça, encore une fois, ça impacte très fort les opérateurs économiques.
Oui, président Jules Moulia, après le retrait des eaux du lac Tanganyika, est-ce que les commerçants se sont remis face à cette ampleur-là?
Non. Surtout qu'il n'y a eu aucun allègement fiscal. Et puis, notamment, l'OCC, l'agence de l'OCC Académie continue à faire payer alors qu'on a demandé plusieurs fois, on s'est plaint plusieurs fois. Elle continue à percevoir, des cautions et des redressements sans reçu. Tout ça disparaît dans la poche des cadres de l'OCC. Et puis, on n'a pas de labo ici, mais ils prétendent qu'ils ont un labo et ils font payer, alors qu'il y a des normes. L'échantillonnage a des normes. On a lu tous les manuels de l'OCC et tout ça, leurs propres manuels, mais ils ne savent même pas lire et appliquer correctement leurs propres instructions.
Mais c'est une situation que vous aviez déplorée dernièrement.
On l'a déplorée. Je l'ai même déplorée à Kinshasa. Mais c'est une situation ahurissante. Alors, on ne comprend pas, en fait. Il me semble que finalement, il y a des gens qui protègent ces cadres-là véreux, au lieu qu'ils soient exposés et révoqués, tout simplement. Mais ils sont protégés.
Est-ce que la FEC a une structure au niveau interne ici qui peut secourir ou encadrer les commerçants victimes des inondations?
Non, on n'a aucune structure, on n'a pas d'épargne. On avait signé une convention avec le gouvernement qui est parti, hein, le gouvernement provincial qui n'est plus là, d'une taxe conventionnelle. Nous pensions que nous pourrions aller prendre un peu de cet argent-là pour secourir, parce que c'est notre argent. C'est nous qui avons signé une convention avec le gouvernement provincial où on mettait de l'argent de côté pour des actions à impact visible. Mais quand la ville est sinistrée, je pense que les commerçants qui tombent en faillite ont commencé à réfléchir dans le sens que peut-être peut-être que la taxe conventionnelle pourrait les aider à travers les structures de l'État. Donc c'est pas de l'argent à donner, mais on pourrait les aider pour aider ces commerçants-là à se relever. Mais cet argent-là a disparu.
Président Jules Moulia, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, le président de la FEC, Tanganyika, répondait aux questions de Paulin Munanga. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Askin Zigbiatayoro et supervisé par Alain Rung. Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengonsoalu, a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci pour votre confiance à la fréquence de la paix.